Cher Molle, deuxième partie, chapitre 1. À l'hôpital, Lucie Tirage d'abord se résigna. Il le fallait. À quoi bon faire la révoltée? Puis sa maladie l'occupait surtout. C'était, sous les draps soulevés, une continuelle inspection. Elle tournait ses bras dans tous les sens, y voyait avec effroi grandir le nombre de taches roses, et sur la poitrine, de mêmes taches saillir. L'aspect de multiples bouffissures violettes, épandues partout, lui était une désolation. De ses mains, elle écartait aux aines les plis de ses chairs grasses, s'attentionnant aux moindres symptômes, avec une terreur pour la découverte d'une nouvelle tare. Et comme chaque jour les chancres se développaient, elle s'affolait, avait des colères, se figurait que la plaie, dans un progrès constant, allait la percer toute, la faire un amas de chair pourrie, où cette purée grise si répugnante fermenterait. Parfois une horreur la prenait de cette vue puante. Brusquement elle ramenait les draps au menton et fermait les yeux. Elle gémissait. La sœur accourait. « Oh, ma mère, j'ai bien mal. N'est-ce pas que ça a encore grossi cette nuit ?»« Mais non, mon enfant. Pourquoi vous faites-vous de la peine comme ça? Restez tranquille, voyons. Calmez-vous. » Avec un linge imbibé de teinture brune, la religieuse mouillait doucement Lucie, apaisant le mal. La fille était heureuse de ses soins. Patiente et soumise, elle avait intéressé le docteur. Toutes les gardiennes. On la dorlotait plus qu'une autre, comme une grande enfant. Et dans les heures où l'obsédante pensée de sa maladie la quittait, elle se sentait à l'aise dans ses draps blancs, entourée de ces personnes silencieuses et propres qui l'aimaient, et certes la guériraient. Elle goûtait un repos charmant après la vie bruyante vécue au Sept. Puis elle avait une vénération pour la sœur, que ses plaies ne dégoûtaient pas et qui la pensait, toute souriante. Pour lui plaire, elle lisait le soir une prière très longue où elle demandait à Dieu la grâce de se bien conduire. Une distraction lui était venue. Elle s'était liée avec une femme couchée près d'elle, souffrant du même mal. Le matin, elles se regardaient l'une l'autre avant la visite du médecin. Et elle causait. La tache près de votre œil va mieux, disait Lucie, mais il me semble que vous en avez deux autres ici. Et elle marquait la place sur le front. Là? Oui, faut-il qu'un homme soit ignoble tout de même quand il sait qu'il est malade pour vous fourrer une cochonnerie pareille? Oh oui, n'est-ce pas? C'est dégoûtant. Et sur le nez, je n'ai plus rien? Oh, vous savez, si jamais je guéris, vous pouvez être sûr que jamais plus j'irai avec un homme. Ça, par exemple, c'est fini. Sitôt sorti, je me remets à travailler. Ah, quel métier faisiez-vous? Moi, j'étais couturière. Tiens, moi aussi. Moi, j'étais à Saint-Quentin. Ah, bien moi, j'étais à Calais, mais il y a longtemps. Un jour, j'ai tout lâché pour aller chanter dans un concert à Dunkerque. Une jolie bêtise que j'ai faite là. Tiens, vous avez été chanteuse? Oh, un sale métier, vous savez. Il faut s'éreinter avec des hommes qu'on ne connaît pas. Et si on n'y gagnait pas un peu d'argent, je crois que j'aimerais mieux être femme de maison. Lucie Tirache rougit, et dans une peur honteuse, elle se mit à inventer une histoire très compliquée. Un jeune homme de Saint-Quentin, dont elle se rappelait le nom par hasard, y jouait un grand rôle. L'autre femme parut s'émouvoir fort, et à son tour, elle s'épanchait en confidence. Elle était allée à Dunkerque avec un chanteur qui l'avait mise enceinte, lui promettant le mariage. Toujours dans ses récits, cet homme devenait plus méchant. Jusque le très dernier, où, ayant volontairement attrapé le mal pour le donner à sa maîtresse, il avait laissé la malheureuse seule, à Douai, sans argent, déjà malade. Une grande amitié unit les deux filles. Elles se contaient leurs petites affaires, se soignaient tour à tour. La voisine de Lucie s'appelait Dosia. Dès le premier jour, Elle apparut une femme pratique, apprit à sa nouvelle camarade des trucs pour obtenir des suppléments. Elle savait feindre une faiblesse, engageant le docteur à ordonner des mets fortifiants. Lucie Tirage voulut profiter de ces subterfuges, qui lui paraissaient admirables, d'une femme tout à fait supérieure. Et la nuit, quand les douleurs au crâne, l'inflammation des pustules les empêchaient de leur sommeil, ensemble, elles combinaient des moyens. Dosia profitait de la faveur où Lucie s'était mise et toujours la chargeait de parler la première. Lucie ne demandait pas mieux, contente de satisfaire à son amie et de rire avec elle tout bas, très longtemps, quand le coup avait réussi. Elle se persuada que Dosia lui était toute dévouée, la trouva bonne, très aimante, se promit bien de suivre ses conseils en tout cas. Et leur maladie, lentement, décrut. Les taches pâlissaient, prenaient maintenant une teinte cuivreuse. Des cicatrices oblitéraient les plaies. Le médecin félicitait les filles de leur exactitude à suivre ses recommandations et les prédisait valides prochainement. Eh, nom d'une pipe, elles pourraient refaire la noce et s'en donner à gogo jusqu'au prochain coup de pied de Vénus. Oh, jamais qu'elles referaient la noce, c'était bien fini à présent. Le docteur s'en allait, haussant les épaules, riant. Mais les femmes, très convaincues, continuaient d'affirmer leur sagesse future et bâtissaient des plans vertueux. Ils n'avaient pas l'air de les croire, mais c'était bien vrai. Plus souvent qu'elles se refourreraient sous la patte des hommes. Oh non, alors! Sitôt sorties de l'hôpital, elles allaient entrer dans un atelier et puis travailler comme couturières. Et déjà, interminablement, elles réglaient leurs dépenses, arrangeaient une vie de sage travail et de joie tranquille. Elles communiquèrent ces idées à la sœur, qui aussitôt les encouragea. Elles devaient remercier Dieu des sages déterminations qu'il leur inspirait. Bien sûr, aux prières qu'elles faisaient tous les soirs, Nina devait cette lumière du ciel. Il fallait revenir à la religion. Sans elle, les meilleures résolutions ne sont que vaines paroles. Et comme ce serait malheureux si plus tard la faiblesse de leur chair les faisait retomber dans le vice. Mais Dieu les soutiendrait toujours, leur donnerait la force de persévérer si seulement elles voulaient se recommander à lui. Il n'était pas possible qu'elles eussent oublié la pratique des sacrements. Elles se rappelaient certainement leur première communion. Elles étaient pures alors, comme les saints anges. Avaient-elles goûté de pareil bonheur depuis leur chute? Et la religieuse avait une douceur qui les touchait. Le souvenir de sa première communion faisait larmoyer Lucie. Elle se revoyait dans la basilique, heureuse de sa belle robe blanche, plongée dans une extase par la vue des cierges, des enfants de cœur, par l'odeur exquise de l'encens. Sœur Sainte Thérèse venait s'asseoir entre elles, leur versait des paroles pieuses et leur lisait l'Évangile pour les distraire. Bientôt, les voyant très attentives, elle leur parla de confession. Lucie Tirache et Dosia consentirent aisément. L'aumônier, un vieillard vénérable, reçut leurs aveux. Dès lors, la religion les prit toutes. Lucie rejeta son besoin d'affection sur Jésus-Christ. Ce Dieu qu'on leur montrait si bon, qu'elle voyait si beau, si délicat avec les femmes, si peu semblable aux autres hommes. Elle baisait le crucifix, elle disait à Dosia ses pieuses pensées, en s'étonnant de la voir moins fervente. Mais son amie lui fit comprendre que la religion avait, pour elle, d'autres avantages. N'était-ce pas un surmoyen d'être encore privilégiée et d'obtenir les meilleurs morceaux? Leur journée était toute de dévotion. Elles disaient des chapelets pour leurs parents, pour la sœur, pour la conversion du docteur. Enfin, Dosia, guérie, reçut avec son bulletin de sortie l'ordre de se rendre à Arras, où elle serait soumise aux surveillances de police. Ce furent des adieux émus. Les deux femmes s'embrassèrent longuement et promirent s'adresser des lettres. Quelques jours encore, Lucie Tirache resta à l'hôpital, choyée par tous. L'aumônier, très fier de cette cure spirituelle, fit une quête en faveur de sa protégée. Il paya l'argent qu'elle devait à la Donard et la plaça dans un atelier de couture, œuvre pieuse patronnée par les dames de la ville. Lucie put enfin partir. Et il y eut en elle, avec la joie d'être libre, un regret de quitter ce lieu où elle avait été si heureuse, d'une vague terreur d'être inhabile à un travail longtemps délaissé. Chapitre 2. Tout bruit cessait dans l'atelier de couture. Sur la chaise, la sœur s'agenouilla et commença la prière du soir. « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il !» répondirent Lucie Tirache et ses compagnes. La religieuse continuait lentement, détachant les syllabes. Elle avait fermé les yeux, appuyé sa figure à ses mains jointes et, immobile sous les voiles, elle semblait perdue en une contemplation de la divinité. Lucie Tirache tâchait à copier ses attitudes. Elle enviait cette grande ferveur, aurait voulu elle aussi être très pieuse pour mériter le salut éternel. Car elle était bien coupable, quelle vilaine existence elle avait menée. Et sans une honte, sans un remords, tant sa dépravation était abominable. Quel remerciement ne devait-elle pas au Seigneur pour lui avoir envoyé cette bienfaisante maladie? Monsieur le directeur avait raison. C'était une miraculeuse intervention de la grâce. Sans ce mal, elle n'aurait jamais eu le bonheur de revenir aux saintes pratiques de la religion. La sœur s'arrêta, ayant récité la première partie de l'oraison dominicale. Tirée de ses réflexions par ce silence subit, Lucie leva la tête et aperçut la salle d'un coup d'œil. Mais ses voisines avaient déjà repris l'oraison, et elle dut prier tout haut. Ses lèvres remuaient machinalement, sans qu'elle songeât au sens des paroles prononcées. Elle regardait autour dans un bien-être. Tout expirait le calme et la propreté laborieuse. La table, supportant des pelotes hérissées d'aiguilles et d'épingles, des pièces de toile. Les ouvrières, agenouillées dans leurs costumes uniformes, sans une tache, sans une déchirure, la pâleur des grands murs badigeonnés, où se découpait nettement la croix brune peinte au-dessus de la chaire, le bois ciré de la chaire, la dame patronesse, gantée de clair jusqu'au coude, lisant en un livre couvert d'ivoire. Et aussi ce demi-silence, où s'élevait, seule, la voix mesurée de la religieuse, une voix adorante et humble. Quelle joie! Ne plus entendre les plaintes des malades, ni les hurlements des filles saoules. Vivre béatement, sans un souci. La guérison complète de son mal lui était accordée. La nourriture saine de l'œuvre l'avait rétablie. Et puis, plus de tracas d'argent, ne s'occupait à rien qu'à son salut, qu'à sa dévotion pour la très-sainte Vierge qu'il avait tirée de l'abîme du péché. Et la salutation angélique, qu'on allait dire, confirma Lucie en ses pensées. Elle avait une profonde vénération pour la Mère de Dieu. Cette nature mystérieuse de mère restée vierge plongeait la fille dans une admiration respectueuse et étonnée. À Marie, elle avait adressé ses premières prières, sitôt suivies de la grâce. Elle lui en gardait une reconnaissance, la jugeant spécialement dévouée à son salut. Avec une scrupuleuse attention qui pesait et méditait chaque mot, Lucie donna le répond de la salutation angélique. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs !» Comme elle avait besoin de cette puissante intercession. Elle avait si gravement offensé Jésus et si longtemps qu'elle n'oserait l'implorer lui-même. Pendant 5 jours, elle avait oublié dire son chapelet. Et même la pénitence, imposée par son confesseur, avait été accomplie à demi. Malgré tout cela, elle n'avait pas craint de s'approcher à la sainte table, en un désir cupide d'obtenir la croix d'or, promise par la dame patronesse pour sa 10e communion. Mais ce qui lui faisait redouter tous les tourments de l'enfer, c'est qu'elle avait encore pensé à Léa. Elle avait même été du côté de la rue Pépin pour la revoir. Heureusement, une ouvrière de l'œuvre l'avait rencontrée et conduite jusqu'à l'atelier. Jamais elle ne pourrait recevoir l'absolution samedi. Et cependant, c'était dimanche, après la messe de communion, qu'on devait lui donner le bijou. Elle était bien malheureuse, inexorablement poursuivie par le tentateur. Elle ne pouvait réussir en rien. Elle serait damnée. On récitait les litanies de la Vierge, et la voix des femmes montait en un concert d'éloges. Sans cesse revenait à Lucie le souvenir d'un sermon prononcé la veille sur les peines éternelles. Et la peinture épouvantable que le prédicateur avait faite de ses châtiments venait l'effrayer, augmenter le désespoir d'avoir perdu le bijou promis. Ses yeux se mouillaient. Elle les gardait obstinément fixés vers le plafond blanc, dans une craintive attente de le voir s'entr'ouvrir pour une apparition de la Madone courroucée. Et elle répétait, larmoyante, « Priez pour nous, priez pour nous !» Il lui semblait que chaque qualité de la Vierge énumérée dans ses litanies devait être un motif de plus pour le pardon. Mais, à mesure que la prière s'égrenait, sans qu'il vînt un apaisement, il lui semblait aussi que la grâce était perdue pour toujours. Désespérément, elle attendait un signe miraculeux qui assura sa requête accueillie. Et bientôt, le plafond se teintait de taches mouvantes, bleues, vertes. Lucie abaissait les paupières, que lancinait un picotement insupportable, et les appuyait en ses mains. Elle revoyait le plafond tout d'azur, comme un ciel sans nuages, puis il rougissait, s'assombrissait, il devenait tout noir, avec un point lumineux, brillant très loin, dans une ombre épaisse. Soudain, ce point lumineux se multipliait, des milliers d'étoiles s'élevaient, disparaissaient, remplacées par d'autres, à l'infini. Lucie Tirage se sentait pâlir et frissonner, presque s'évanouir. Elle rouvrait les yeux précipitamment, croyant à une mort proche, persuadée que Marie l'exauçait en l'appelant près d'elle. Mais elle retrouvait la salle très calme, où psalmodiait toujours la voix de la religieuse, ses compagnes agenouillées, la croix brune, et de son extase, il ne restait qu'une énorme tache verte, dansant devant son regard, s'interposant entre elle et les objets. Elle s'abîmait en un béat orgueil. Ainsi, manifestement, la Vierge lui avait promis assistance. Cette vision qu'elle avait eue était un sûr garant de la bienveillance divine. Elle serait sauvée, siégerait à la droite de Marie, parmi les anges, et jouirait du bonheur céleste. Cette marque de la bonté suprême n'avait rien d'ailleurs qui dût la surprendre. Elle avait tant prié. Et puis, au sept même, elle avait toujours eu un grand respect pour la religion. Elle était seule à ne pas se moquer de la dévote Emilia. Elle avait suivi plusieurs fois ses pieux conseils. Elle commencerait une neuvaine pour cette véritable amie, dès demain, car maintenant elle ne pouvait plus. Cette apparition l'avait bouleversée, fatiguée. Ses genoux lui faisaient mal. Et faire de nouvelles oraisons, à présent, serait abuser de la mansuétude infinie. « Mon Dieu, je viens vous offrir mon travail et mes peines. » Lucie Tirage fut frappée de cette invocation. C'était sans doute sa grande application au travail qui lui avait obtenu la protection divine. Du reste, aujourd'hui encore, elle se coucherait tard. 8 mailles, au moins, était échappé à son bas, et son pantalon s'était décousu. Elle sentait le bord rude de la toile lui couper la peau. Elle avait encore faufilé 5 chemises. La dame patronesse l'avait félicitée, lui avait même promis l'établir un jour, si elle continuait à se bien conduire. Cette dévote personne avait fermé son livre, et les mains sur sa face voilée, elle poussait de petits soupirs par intermittence. Le chapeau, un amas de dentelle habilement chiffonné, tremblait au moindre mouvement, et la robe de peluche grenat avait des cassures arrondies que la lumière blanchissait. Une bien belle jupe, qui devait coûter très cher, une couleur saillante aux brunes. Elle-même, Lucie, avait eu un costume de pareille nuance, et Léon l'avait trouvée charmante, ainsi vêtue. Quel contraste avec les robes grises des ouvrières, leurs pèlerines noires, cachant les épaules et la poitrine, et ces pauvres petits cheveux qui frisottaient sur les nuques inclinées, échappées au bonnet blanc. Pauvre fille! Comme elle devait être malheureuse, n'ayant même pas cette consolation de se savoir soutenue par la Vierge très-sainte. Comme elle les plaignait! Elle devait être bien laide, elle aussi, sous cette livrée lugubre. Qu'importait, du reste? Être gentille, c'était bon pour plaire aux hommes. Et elle n'y tenait plus. Comme c'était vilain de penser à ces choses! Elle allait encore retomber dans le péché. Ce serait bien mal, trahir ainsi la confiance de Dieu, quand on venait de recevoir une si grande marque de sa bonté. La prière finissait. Toutes sortaient en hâte, et à la porte, les bonsoirs échangés, chacune disparut d'un côté différent. Bientôt Lucie se trouva seule. Elle marchait rapidement par les rues vides, très noires, piétinant dans les flaques d'eau, qu'éclairait rarement la lueur tremblante d'un réverbère. Les chansons hurlées par les étudiants, les gueulades lancées par les artilleurs ivres, lui faisaient activer sa course, lui inspiraient la crainte d'être accosté, peut-être reconnu. Il était bien triste, aller toute seule ainsi par la ville déserte, sans une compagne. Elle mourrait de peur avant d'arriver. Si au moins Dosia était avec elle. Pauvre Dosia! Elle restait à Arras, à s'ennuyer bien fort, sans avoir, comme elle, d'excellentes personnes pour la conduire dans le droit chemin. Un mois s'était écoulé depuis la réception de sa dernière lettre, une lettre désespérée. Elle ferait aussi une prière à son intention. C'était encore une bonne action invoquée en faveur d'autrui. Elle passa le pont, jeta à peine un regard de chaque côté vers l'ombre, piqué par les feux des bateaux. Le lampadaire, devant le palais de justice, avait une flamme mourante qui n'éclairait pas. Un ivrogne s'affaissait contre les murs, grognait, se soulageait. Le beffroi carillonnait un air traînard. Ensuite, il sonna 10 fois. De la place Saint-Pierre, des refrains grivois arrivaient en beuglement. Lucie Tirache enfila une petite rue, s'enfonça sous une grande porte. Elle chercha à tâtons le bouton d'un huis, finit par le trouver, et entra dans une pièce sombre où brillait pauvrement une chandelle fumeuse. Sur un fauteuil de paille, une masse grognante se remua, deux yeux luirent sous un bonnet sale. « Ah, c'est vous, mademoiselle Tirache? Il y a une lettre pour vous. Je l'ai mise sous votre bougeoir, avec votre clé. » Lucie s'approcha à la table, découvrit une enveloppe rose qui sentait le patchouli. Elle reconnut l'écriture de Dosia, et comme la masse ne remuait plus, exhalait seulement un ronflement gras, elle se pencha vers la chandelle, déchira l'enveloppe avec impatience, et parcourut 8 pages d'une belle écriture. Chapitre 3. Arras, le 9 mai 1800. Café-concert des Allées, maison Huchet, consommation de premier choix, billard, boulevard Crespel, Arras. Ma chère amie, depuis que je t'ai écrit, je ne suis plus couturière. J'ai remercié la vieille dame où on m'avait placée par la raison qu'elle ne me payait pas assez, et que j'avais toujours des raisons avec elle au sujet de ce que je regardais par la fenêtre. Alors je me suis mise chanteuse dans un concert, où on m'a tout de suite acceptée quand on a vu ce que je savais, ce qui fait qu'à présent j'ai repris mon ancien métier. Je gagne 8 francs par jour, c'est assez pour une femme seule, et j'ai un grand succès à Arras auprès des jeunes gens, et la vieille m'a joué un sale tour quand elle a vu que j'étais chanteuse. Elle a dit à ma propriétaire qu'elle me dise de m'en aller parce qu'on lui avait fait des rapports que j'avais pas bonne conduite. Alors ma propriétaire, elle est venue me dire qu'elle ne pouvait pas faire autrement parce qu'elle gagnait tout par elle. On m'a mise à la porte, ce qui a été très embarrassant, car les gens d'Arras ne veulent pas louer aux femmes seules. J'ai couru dans toute la ville à me faire refuser partout. Heureusement qu'un monsieur bien aimable a loué une chambre pour moi, en me garantissant. Je n'ai pas voulu coucher avec, car je veux rester sage, comme nous l'avons promis toutes les deux avant de sortir de l'hospice, et comme tu me l'as écrit encore dans ta dernière lettre. Enfin, tout ça, c'est bien embêtant. J'ai peur que tu t'ennuies toute seule à Douai, comme ça, et que tu n'ailles pas bien. Il y a 6 mois que je ne t'ai vue, ça me semble bien long. Si j'étais libre quelquefois, j'irais te voir seulement. Je ne suis jamais libre parce que je me couche très tard, et il faut que je me repose dans la journée pour pouvoir travailler le soir. Tu viendras me retrouver ici à Arras. Tu trouveras facilement une place de couturière, car les magasins ne manquent pas. Ou, si tu voudrais, tu te mettrais chanteuse avec moi, car on y est très bien. Tout le temps on est libre, à part le concert du soir. Même le lundi, on a la permission pour aller au théâtre. J'y ai été lundi. On jouait la mascotte. Celle qui faisait la mascotte te ressemblait beaucoup. Elle était fort jolie et chantait très gentiment, comme toi. Hier, il est venu au Beuglant un monsieur de Paris qui m'a dit que je chantais aussi bien que les chanteuses de Paris qui chantent à la Scala, et il voulait me faire aller à la Scala. Mais j'ai refusé, car je compte bien que tu vas venir ici chanter avec moi. Nous chantions très bien à l'hospice quand nous allions mieux. La sœur Sainte Thérèse était une bien bonne femme. Tu lui feras mes compliments si tu la vois. Ma maladie est guérie, mais je reste sage tout de même, car je t'ai promis et je t'aime trop pour te faire de la peine. J'espère que tu es aussi en bonne santé. Si tu pourrais venir ici, nous serions bien heureuses toutes les deux. Nous nous promènerions tout le temps ensemble. Seulement, quand nous aurions soif, nous ne pourrions pas aller prendre une consommation dans un café, car il est défendu ici aux femmes d'entrer dans les cafés. C'est un bien drôle de pays. Mais si tu voulais me faire plaisir, tu viendrais tout de même. Je t'aimerais bien assez pour te faire oublier tous ces embêtements. Avec 15 francs, tu auras assez pour commencer, car on trouve des robes pas chères aux ventes du Mont-de-Piété. Et j'en ai acheté une crème avec des paniers pareils et des entre-deux de dentelle. Et j'en ai vu vendre une grenat pour 10 francs, ce qui t'aurait très bien été. Elle m'a fait penser à toi, parce que je crois que c'est la couleur que tu préfères. Si tu viendrais, je t'aurais des costumes de soirée pour le concert, à une couturière qui est bien bonne fille, car on n'a pas besoin de payer tout de suite, et elle avance les fournitures. On lui paye seulement 3 francs par semaine. Tu chanteras des chansons comme « Ah, Cydalise, fais pas de bêtises !» que tu chantais si bien à l'hospice. Et puis, tu étais si gaie que vraiment ça me manque de ne plus te voir. Il n'y a pas besoin ici, pour être bien applaudi, d'aller avec les types, car du moment qu'on boit avec eux, c'est tout ce qu'ils demandent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des maîtresses, et les autres s'en servent, ce qui fait qu'ils ne courent pas beaucoup après les femmes qui ne sont pas d'ici. Je compte que tu viendras à la fin de la semaine. Il y a une place de chanteuse de libre, et aussi une chambre de libre à côté de la mienne. Si tu pourrais venir samedi, ce serait bien commode. Tu débuterais dimanche, et je suis sûre que tu aurais un vrai succès. J'irai t'attendre donc à la gare, samedi soir, à 6 heures, et puis j'aurai retenu ta chambre. Tu m'écriras si je dois prendre l'omnibus pour ta malle. Voici mon adresse. Mademoiselle. Mademoiselle Dosia, artiste, chez Monsieur Huchet, au Café des Allées, entre la Citadelle et le Jardin du Gouverneur. Boulevard Crespel, Arras, Pas-de-Calais. Il y a tout près de mon hôtel une église toute neuve qu'on a construite à cause d'un miracle qu'il y a eu avec une chandelle. J'y vais à la messe tous les dimanches. Tu irais tous les jours si tu veux. Tu n'aurais pas de changement dans tes habitudes. Au revoir, ma chère amie. À bientôt donc. Je t'embrasse 1000 fois. Ta petite Dosia qui t'aime beaucoup, beaucoup. Dosia. Post-scriptum. J'attends une lettre tout de suite pour que je puisse dire au directeur et au patron que tu arrives. Surtout dis oui, ou je ne t'aimerai plus du tout. Excuse-moi si j'ai mal écrit. J'ai un rhume de cerveau qui m'empêche de voir clair. Cette lecture achevée, Lucie Tirache, dans une vague crainte de se raviser, réveilla la masse qui grogna plus fort, lui fit indiquer la place du papier et des plumes, se mit à répondre à Dosia qu'elle acceptait. Le samedi suivant, elle arrivait à Arras, se jetait avec une joie pleurante dans les bras de son ami, qui l'attendait à la gare. Chapitre 4. Sous l'enseigne aux lettres déteintes, café des allées, une porte cochère bâille à deux battants, découvrant au fond du porche du feuillage en touffe. « C'est la baraque, » indiqua Godosia, « et cet après-midi on chante dans le jardin. » Lucie Tirache trouva déplaisant l'aspect extérieur de cette bâtisse. Avec un regret, elle se retourna du côté des promenades où jouait la musique militaire. Sous les rangées de marronniers, une foule grouillante et susurrante, une procession de pas, traînant sur le sable, qu'étouffe parfois le mugissement de la mélopée cuivreuse. Au centre, dominent les shakos des musiciens barrés de passementeries jaunes, et le bâton du chef, emmanché d'un gant blanc, les dépasse, s'élance dans le vert tendre des feuilles, s'engloutit à nouveau dans le bleu sombre des uniformes. « Tiens, le patron !» fait Lozia. L'homme est coiffé d'une calotte en velours. Une veste tricotée lui serre le torse. Il examine les chanteuses, puis les appelle. « C'est déjà l'heure ?» demande Lucie effarée. À leur salut, le patron répond d'un signe, l'air maussade. Il ouvre cependant lui-même la porte du café, s'efface, et Lucie, à peine entrée, s'arrête éblouie, plissant les paupières. Par toutes les fenêtres, le soleil fait irruption, renforce les ombres rétrécies, irise le pelage noir d'un épagneul qui dort. C'est une débauche de lueurs, un ruissellement d'aveuglants rayons, un tourbillon continu de poussière scintillante. Cette lumière, renvoyée à tous les angles par deux glaces opposées, se darde, blanchit les murs, les gradins d'une estrade, dore la paille des chaises, se reflète sur le palissandre d'un billard. Tout près de Lucie, contre une des glaces, des tablettes où flambent le miroitement des flacons, où s'alignent, reflétant les fenêtres, des verres, des bouteilles étiquetées de blanc, capuchonnées de plomb terni. Et plus bas, le comptoir resplendit. Il s'y entasse des faisceaux de cuillères, des empilements de chopes. Un bassin de cuivre, où trempent des verres, étincelles. Les deux miroirs opposés, réfléchissant les objets à l'infini, ouvrent de chaque côté de la pièce d'interminables perspectives rompues par des caractères peints au blanc sur leur face polie. Ce soir, dimanche 16 mai, début de Mademoiselle Nina, chanteuse de genre. Le patron baissa les stores. Les filles accrochèrent leurs chapeaux aux patères de bronze, allèrent lisser leurs tailles devant les miroirs et passèrent dans le jardin, vide encore. Il était terminé par un espace circulaire encombré de tables et de bancs. Tout au bout se dressait, en manière de théâtre exigu, une scène couverte, bariolée de raies tricolores. Elle béait en plein vent, sans abriter ses trois chaises, son guéridon de fer blanchi qui supportait un plateau d'étain. Sur la corniche, des lettres contournées voulaient dire « Alcazar d'été ». « C'est là-dessus qu'on chante ?» demanda Lucie. « Oui, ma fille, et puis le dimanche soir, les musiciens se collent à notre place pour le bal, parce que, vois-tu, on retire les tables et on danse. » Un piano était appuyé à la scène. Les deux femmes y déposèrent les morceaux qu'elles devaient chanter. Ainsi c'était là, pensait Lucie, que son sort se déciderait. Bah, ça n'avait pas l'air fort riche. Les gens qui fréquentaient ça ne devaient pas être difficiles. Et puis tant pis, elle verrait bien. Elle suivit Dosia sous les gloriettes qui encadraient le jardin en demi-cercle. Puis, assise, près d'elle, se renseignait, craintivement. Mais au milieu d'une phrase, « Tiens, v'là le cornac !» Un petit brun, tanguant sur deux jambes torses, s'avançait, suivi d'une femme maigre. « Est-ce qu'il chante aussi, ce paquet d'os ?» demanda Lucie. « Mais je te crois, » répondit Dosia. Et du sentiment, donc. Dans l'allée, le couple se sépara. La femme entra au café. Le mari, souriant, s'approcha des chanteuses. « Bonjour, les poulettes !» Et il ricana de tout le corps en une contorsion aimable. Il ouvrit le piano et disposa la musique. Des gens entraient. Un homme, gros, cachant sa figure derrière l'énorme chapeau d'un enfant qu'il portait au bras. Des femmes, affichant leur sollicitude maternelle, tirant leur bébé, soutenant des grappes de jouets. Des ouvriers en redingotes luisantes, tambourinant sur les tables de leurs ongles violacés. Des jeunes filles, toutes habillées de noir, toutes coiffées de chapeaux bleu ciel. Des militaires venaient s'adosser aux arbres, les pouces dans le ceinturon. Et, sur chacun, le directeur lançait un mot drôle qui tordait les deux chanteuses. Lorsque le nombre des consommateurs lui parut suffisant, il s'assit au piano, tapota pour allumer le public. Ses notes dominaient le bruit éloigné de la foule. Mais par degrés, le son des voix devenait plus fort, mêlé aux tyroliennes hurlées par les voyous. Les clients désertaient les promenades, envahissaient en masse le jardin par toutes les portes. Maintenant, les garçons couraient, ahuris, portant des chaises et penchant la mousse des chopes dans les cases de leurs corbeilles. Pressés de répondre aux appels incessants, ils rendaient vite la monnaie, fouillaient dans leurs poches en retenant les pièces blanches entre leurs dents. Les gloriettes étaient emplies, et Lucie voyait les couples amoureux se serrer volontiers pour faire place aux arrivants nouveaux. Sur un arbre, le patron cloua un avis. « On est prié de faire silence quand on chante. » Lucie souriait. Cette nouveauté la charmait. Elle trouvait tout très drôle. Mais Dosia, qui était restée auprès d'elle, courut vers un bosquet. Et la fille, restée seule, sentit comme une tristesse. Ainsi la chose était décidée. Elle allait faire ses débuts. Et une appréhension croissante la poignait de cet événement prochain si grave, solennel. On allait rire d'elle, bien sûr. Elle serait gauche. La voix, peut-être, lui manquerait. Puis la méchante vie qu'elle avait prise, là, et sans réfléchir, oublieuse des tranquilles joies. Elle éprouva un instant le furieux dessein de se sauver, de lâcher tout, ce beuglant, ce public sans doute moqueur, cette ville, de retourner à Douai pour demander pardon. Le pianiste plaqua des accords. Dosia revint prendre place sur sa chaise et égaya son amie d'un regard railleur pour la femme maigre qui accourait dans une robe de soie rose très bouillonnée. Le silence se fit sous les « chut » prolongés du patron, qui promenait parmi les bancs sa mine sévère. Dosia s'était levée. De quelques tapes, elle remit en ordre les plissés de son costume, et, se penchant vers le public, elle commença. « Faut pas pousser des holà. Je m'appelle Mademoiselle. Je m'appelle Mamselle Nana, de Zola. » Elle montrait du doigt son corsage rebondi, étendait les mains, les frappait l'une à l'autre avec un rythmique dandinement des hanches. Quand elle acheva le troisième couplet, des bravos enthousiastes éclatèrent. Les soldats surtout s'évertuaient à bruire. Ils se levaient et applaudissaient avec de larges ricanements. Dosia, légère, descendit de la scène. Devant le nez de chaque auditeur, elle passa le plateau, ponctuant ses demandes en secouant les sous. Hey, « Hé, vous, gros, vous m'oubliez !»« Oh, ma fille, je suis en dèche !»« Oh là là, pauvre homme, je vous plains !»« Et vous, c'est-il votre femme qui vous force à faire des économies ?» Lucie examinait et écoutait très attentive. Après tout, ils n'étaient pas bien difficiles, ces gens-là. Dosia était une brave fille et très drôle, mais enfin, elle avait bien mal chanté. Cependant, une crainte vague encore lui demeurait. À son tour, la femme du cornac se leva. Elle fit une révérence sérieuse, elle roucoula, en lançant de tendres œillades à la draperie rouge de l'Alcazar. Gentil voisin, par le même chemin, à travers les roses nouvelles, sans crainte de les écraser, pour que ma réponse ait des ailes, je la remets dans un baiser. Sans cesse, son bras s'étendait dans un baiser languissant. Une émotion profonde avait pris l'auditoire. Des femmes, presque pleurantes, giflaient vigoureusement leur bébé pour faire cesser un bruit de pantin frappé sur la table et qui empêchait d'entendre. Le gros homme soufflait, très empoigné, s'abritait toujours derrière l'immense chapeau de son enfant. Mais Dosia et Lucie s'attentionnaient à un groupe de paysans blondasses en blousés courts. Ils regardaient l'alcazar et les chanteuses dans un ébahissement admirateur. Ils salivaient par minces jets entre les bouffées de leurs pipes, puis essuyaient leurs lèvres d'un revers de main. L'un d'eux surtout hilarait les filles. Un grand, au nez aplati dans la face joufflue, aux cheveux jaunes, noircis par plaques, sous la pommade. « Oh, mais regarde, Nina, son papa s'est assis sur sa frimousse quand il est sorti du chou, celui-là. »« Ben vrai, quelle tête !» L'homme, se voyant observé, rougissait, buvait coup sur coup pour reprendre un aplomb. Ses camarades le plaisantaient, patoisant des syllabes gutturales. « Oh, chéti qu'elle ravise comme nous. Non, j'ai pas mis chéti. Acheteur, j'ai mis. Et t'es sot. Chéti, j'ai bainti. Oh, elle ravise corps, comme elle t'a chère. »
Lucie Tirage riait encore lorsqu'elle dut se lever pour chanter. Elle se remit très vite, et tout d'un trait, avec une grande dépense de gestes et d'inflexions malicieuses, elle débita une scie dont les couplets, arrêté brusquement au milieu d'une phrase, se terminait par l'imitation d'une roucoulade de mirliton. J'ai vu, à l'exposition, des sommiers fils d'Écosse. C'est solide, je dis pas non, mais je crois que pour une nuit de noces... Et le mirliton reprenait. Après avoir hurlé cinq couplets, accompagnés de clins d'œil provoquants, elle fit mine de descendre pour la quête. Mais le public, dans un délire, se récria. « Bis !» « Bis !» Ces bis se prolongeaient, étaient unanimes, couraient de bouche en bouche. Par instant, le bruit s'apaisait, puis, près de la porte, une voix relançait le monosyllabe approbateur qui, de nouveau, se répandait, frénétique. Brognier, le pianiste, félicitait Lucie avec un enthousiasme galant. « Allons, ange de mon âme, recommençons pour l'amusement des enfants, la tranquillité des parents. » En voilà un riche début. Lucie remonta sur la scène, chanta au milieu d'un silence flatteur. Je vois un monsieur là-bas qui boit sa chope de bière. Sa femme, pendant ce temps-là, est prête en train de le faire. Et quand le son du mirliton reprit, tous les rires s'exhalèrent vers le gars à face aplatie que Lucie, en chantant, avait désigné du doigt. Il devint bleu, puis très pâle. Dut enfin s'en aller, malgré les instances de ses camarades qui lui criaient « Hé, reste donc, hé, sot, tu vois pas que j'ai pour rigoler un mollet ?» Les rires recommencèrent. Ce fut un affolement, un succès énorme. Jamais Nina n'avait été si heureuse, ni si fière d'elle-même. Étonnée, d'abord, d'avoir si bien pris les allures de son nouveau métier, elle crut enfin que son temps d'épreuve avait cessé. Elle s'avoua qu'elle avait un tempérament d'artiste. Et tout en faisant danser les sous dans son plateau, devant les consommateurs, elle songeait aux belles destinées que ce jour lui devait ouvrir, se voyait déjà cantatrice à Paris avec des princes pour amants. À 8 heures, Lucie, ayant dîné, revint au café pour le concert du soir, portant, enfilé au coude, un paquet de hardes. Elle entra avec son amie. De sa vie au bordel, elle avait gardé une habitude, le besoin de sentir toujours une femme près d'elle. Et elle reportait sur la chanteuse ses tendresses natives, l'accompagnant partout, admirant tout d'elle. À grand-peine, sous le relucage obstiné du public, les deux femmes se frayèrent un chemin dans la salle encombrée. Par une porte vêtue de cet écriteau « Entrée interdite », les chanteuses pénétrèrent dans la loge. C'était une pièce irrégulière, fort petite, noire malgré le gaz. Aux champignons d'un porte-manteau, les costumes de la représentation pendaient, un fouillis d'étoffes voyantes. Sur une table ronde, des cuvettes veinées de fêlures. épars, autour, des pots de pommade, des savons, une guirlande de fleurs artificielles. Dans ce désordre, Dosia voulut trouver une place pour les robes de Lucie. Mais bientôt elle s'impatienta, bousculant tout, renversa une cruche dont l'eau se répandit. « Zut alors, on ne sait seulement pas où mettre ses affaires. En voilà une sale boîte. Et les larbins, qu'est-ce qu'ils font donc ?» Lucie, retenant toujours son paquet dans les mains, assistait aux colères de Dosia, sans parler, avec la timidité souriante d'une nouvelle venue. Elles se mirent à déballer les effets, très soigneuses d'en secouer les plis. Bientôt la femme du pianiste les vint rejoindre. « Vite, dépêchez-vous, mes chers, c'est l'heure. Oh, j'ai une migraine ce soir, je ne sais comment je vais faire pour chanter. » Toutes trois, dans un déboutonnement rapide, découvrirent les blancheurs des bras, de la poitrine, et chacune revêtit son costume de soirée. Quand elle se fut habillée, Lucie Tirage se mira. Sa poitrine nue mouvait doucement, en l'étreinte d'un corsage de soie mauve. Un collier de velours mettait une raie sombre sur la peau blanche du cou. La courbe de ses jambes était moulée dans des bas noirs, ornés aux chevilles de broderies d'or. Et la jupe rose descendait à peine aux genoux, laissant voir les dentelles du pantalon. Lucie se trouvait vraiment gentille. Elle oubliait ses récentes pudeurs. Elle laissa tomber sur ses épaules le flot de ses cheveux châtains. Elle les noua sur la nuque d'un large ruban. Et comme elle voyait dans la glace Dosia s'approchant, elle se retourna pour contempler son amie. « Oh, que tu es bien comme ça !» Au fond, elle pensait que Dosia, pour sûr, portait mal ses robes. Elle avait un corsage crème très décolleté, aux pieds de hautes bottines blanches lacées de rose. Non, décidément, Dosia n'avait pas son chic. Oh, ni Madame Brognier, alors, avec sa robe de bal en soie grise, de longues mitaines sur les bras, un air de vieille bégueule tout à fait. Et comme ses os saillaient, semblaient craquer, malgré le soin qu'elle avait eu de s'élargir dans une ample jupe à panier. Les trois femmes achevaient leur toilette lorsqu'un sonnement les appela. Elles revinrent au café. Elles montèrent sur l'estrade. Un regard jeté à la glace, un dernier arrangement donné à la ceinture, et toutes trois s'assirent, tournées vers le public. De nouveau, Brognier, avec un rythme enragé, entama la mascotte. Les refrains étaient lancés, à voix forcée, par les chanteuses qui voulaient être entendues quand même, malgré la musique du bal installée dans le jardin, malgré les interruptions fréquentes des clients pressés de se voir servir, malgré les continuelles entrées des sous-officiers en grande tenue, traînant leurs sabres. La chanson finie, c'est un remuement de chaises, un passage frayé à la hâte pour la quêteuse, un glissement sourd de bottes sur le plancher. Lucie passe en fredonnant, traverse les nues de fumée, attire les convoitises des mâles, en mettant sous leur nez ses bras parfumés de veloutine. Pour tous, elle a un sourire aimable, et d'un gracieux merci, elle montre ses dents blanches lorsqu'un décime tombe dans le plateau. Une réminiscence de ses anciens succès la rendait très hardie. D'un coup, elle avait pris les manières des autres chanteuses. Elle faisait son métier savamment, avec des câlineries et des ruses alléchantes. Au jardin, elle quête sous les gloriettes parmi les danseurs. Un tour de valse, si le patron ne regarde pas, et vite, elle rentre pour vider le plateau dans l'escarcelle du cornac. Vers 9 heures, le gloussement aigu des clairons sonnant la retraite s'entendit. Par instant, s'éteignait, puis reprenait plus fort, et bientôt, il assourdit la salle, faisant frissonner les vitres. Alors, tous ensemble, soldats et sous-officiers, vidèrent leurs chopes, se levèrent, creusèrent les ventres pour reboucler les ceinturons et vérifièrent les matricules au fond des chacos. Ils sortirent après un dernier regard aux trois femmes qui trônaient sur la scène. Leur départ attrista Lucie. Se tournant vers Dosia, elle les plaignit, et comme son amie l'écoutait à peine, elle lui reprocha son mauvais cœur. Le café se vidait. Ménage et petites ouvrières s'en allaient, la mine endormie, après un calcul compliqué de leurs gros sous. mais un bruit de chant, de sifflet, annonça une bande de jeunes gens. Ils entrent avec leur maîtresse, ils sont très ivres, ils crient, ils gesticulent, ils s'entassent aux pieds des chanteuses. Dosia, qui allongeait le cou pour souffler à Madame Brognier les paroles d'un couplet, se retourna vers sa camarade. « Ça, c'est la haute gomme !» La nuit avançait. Le pianiste accordait aux chanteuses épuisées de longs repos. Des fragments de conversation arrivaient à Lucie. On la commentait. On supputait le tarif de ses nuits. Habituée par sa vie antérieure à s'entendre ainsi marchander, une appréhension élogieuse la flatta. Dans un autre groupe, des vanteries étaient lancées, des énumérations de pièces abattues. Les jeunes gens s'injuriaient, déversaient à plaisir l'ordure des épithètes grasses. Ils se narraient aussi des tours joués aux filles. Lucie Tirage s'indignait à les écouter s'enorgueillir des amours non payés, volés. Leur maîtresse, silencieuse, sirotait leurs boissons, ou bien tout bas se parlait, et quelques-unes, profitant de l'animation des disputes, adressaient par-dessus l'épaule de leur michet des œillades entendues à d'autres hommes installés plus loin. Lucie, dédaigneuse, les méprisa. Maintenant, suffoquée par l'odeur montante de la fumée, étourdie par les exclamations bruyantes échangées de table à table, les chanteuses hurlaient sans conviction, impuissantes à dominer le tumulte. Mais bientôt, des officiers, des messieurs, vinrent payer du champagne aux artistes. On s'épancha en élégante flatterie. On sollicita tout bas la permission de reconduire ces dames. Puis les derniers couplets défilèrent dans un galop. Ils étaient remplis d'allusions, de coups d'œil, de sourires encourageants, auxquels les michets interpellés répondaient par d'autres sourires, d'autres œillades. Aux demandes des hommes, Lucie d'abord n'opposa point un refus formel. En elle, les désirs se réveillaient. Mais le souvenir de sa maladie, les défenses du médecin la hantèrent. L'idée d'un nouveau séjour à l'hôpital la terrifiait. Et avec effroi surtout, elle se voyait forcée encore, en sortant, à travailler dans un atelier pieux. Oh, pour rien au monde elle ne reprendrait cette vilaine existence. Au dehors, le bal finissait. Les danseurs, en transpiration, envahissaient le café, traînant derrière eux des filles dépeignées. Tous se mirent à boire des chopes goulûments. Et le concert s'acheva. Le piano fut refermé, les chanteuses s'allèrent dévêtir. Quand elles revinrent, des officiers restaient encore dans une attente. Sur le piano, le cornac érigeait des piles de décimes, et Madame Brognier, oublieuse de sa mimique sentimentale, surveillait l'encaissement des fonds. Elle comptait la recette, si attentive qu'elle cherchait machinalement, sans les trouver, les boutons de son manteau dans l'entremêlement des effilés. Une interminable promenade commença dans la ville, le long des murs de la caserne, près des chaînes du marché aux chevaux. Lucie, enlacée par un officier, marchait lentement, se débattait sous les caresses, toute heureuse de se sentir serrée dans les bras d'un homme, après une si longue abstinence de baisers. Mais, à sa porte, elle lança un refus net, à peine mitigé d'une excuse. « Non, vous savez, faut pas m'en vouloir, je veux pas faire ça, pas plus avec un autre qu'avec vous. » Vite, elle monta dans sa chambre et s'amusa malignement à considérer, de sa fenêtre, l'allure piteuse de l'éconduit, qui, la tête dans le collet relevé de sa capote, s'éloignait, battant l'asphalte. Longtemps elle le suivit des yeux, et par degrés sa moquerie s'éteignit. Elle plaignait ce jeune homme de retourner seul. Il y avait en elle comme un regret.